Madame Delaine, après votre départ à la retraite, vous avez souhaité devenir patiente experte. De quoi s'agit-il?
Quand je me suis retrouvée donc en interruption de vie professionnelle, j'en ai parlé aux neurologues qui me suivent, donc au CHU, au Centre de ressources et de compétences de la Timone, en disant que j'avais besoin de m'investir pour aider les gens. J'avais vraiment envie d'aider les gens. On m'a indiqué à ce moment-là qu'il existait des formations. Je ne connaissais pas la fonction de patient expert. C'est un nom, c'est un mot un peu ronflant, hein, patient expert. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais je suis un peu à l'aise avec ça maintenant, parce qu'après tout, nous les patients atteints de maladie, nous sommes experts de notre vie avec la maladie. Hein. Nous l'avons expérimenté et nous en sommes devenus les dépositaires. Donc, pour moi, comme expert, expérimenté, expérience, ça le même radical latin, expérimenté, celui qui a fait l'expérience de la maladie, je suis moins gênée. Mais mon expérience à moi, elle vaut pour moi. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de transformer cette expérience personnelle en expérience pour autrui et même en expertise, c'est-à-dire de la structurer, de la renforcer. Et on m'a indiqué donc qu'il existait une formation de patient expert qui était dispensée par la fac de médecine de Marseille. C'est une formation exceptionnelle qui débouche sur des diplômes universitaires. Elle est ouverte à tous les patients atteints de maladies chroniques et aussi à leurs aidants. Elle dure un an. Il y a deux diplômes. Il y a un certificat universitaire, puis il y a aussi un diplôme universitaire qui est un peu plus lourd. Elle se décline sous forme d'enseignement autour des institutions sanitaires. Quelles sont nos institutions? Quel est notre système de santé? Quelles sont les grandes pathologies? Où en est-on de l'épidémiologie? On fait aussi de l'enseignement autour de l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on est dans une grande ville, Marseille, où l'éducation thérapeutique du patient est très développée. Tout ça, ça a été une façon de structurer mes connaissances et de les développer, de les renforcer, et ensuite de me permettre de discuter avec des professionnels de santé. J'ai aussi bénéficié d'une autre formation à Paris, avec Catherine Tourette-Turgis. Catherine Tourette-Turgis, c'est la fondatrice de l'Université des patients à Paris. Et cette formation, elle a été initiée par une association à laquelle j'adhère, qui est la Ligue française contre la sclérose en plaques. Et partout, si vous voulez, j'ai trouvé un état d'esprit positif, avec des tas de champs d'intervention.
Maintenant que vous êtes formée, quelles sont vos activités?
Cette fonction de patient expert, chacun a fait un peu ce qu'il veut et ce qu'il peut dans son environnement. Moi, mon champ d'intervention, c'est aider les autres, c'est faire du lien, créer du lien. Ici, on a créé à Marseille ce qu'on appelle les KWASEP, qui permet de nous retrouver. Jusqu'à la pandémie, c'était dans des lieux éloignés de l'hôpital, dans des bars, dans des cafés, dans des restos où on nous accueille volontiers. Et puis, maintenant, en utilisant le digital, hein, sur le Zoom, le Skype, en format des groupes de parole, et puis en nous exprimant aussi auprès des professionnels de santé. Par exemple, à Marseille, on participe au comité de pilotage du Centre de ressources et de compétences de la sclérose en plaques, qui a été formé par les grands professionnels de santé sur le territoire, sur PACA. On participe aussi à des activités conduites par l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. On participe à la formation, on est appelé à participer, à donner des cours, des enseignements aux professionnels de santé, aux paramédicaux. On intervient dans le cadre de l'éducation thérapeutique, où l'on peut témoigner puisqu'on a la formation dans des champs qui vous intéressent. Moi, je peux intervenir autour de thèmes que je connais, la gestion de la fatigue, le voyage aussi. On peut voyager avec une sclérose en plaques, dans le champ du droit, bien sûr, des droits sociaux. Au niveau parisien, on est consulté par le ministère sur la simplification des démarches, les restes à charge. On peut témoigner aussi dans des émissions de radio, hein, comme la vôtre. Hein. On réalise des brochures aussi au profit des patients avec des laboratoires. Voilà quelques activités que l'on peut développer.
Et toutes ces activités-là sont d'ordre bénévole?
Oui, c'est du bénévolat. En France, on est dans le bénévolat. Il y a une professionnalisation dans certains pays, notamment au Canada, où ces expériences-là se développent. Les professionnels de santé travaillent beaucoup avec les patients ressources, les patients témoins, les patients les patients partenaires, vous voyez. Et puis dans d'autres pays européens, il y a, oui, on est en avance. Oui, nous, on est dans les balbutiements. On est dans les balbutiements de cette expérience qui a débuté il y a 30 ans. Les patients experts, ils sont nés, si vous voulez, avec d'abord les alcooliques anonymes. Hein. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis hein, dans les années 30. Puisqu'il y avait un échec thérapeutique, donc les patients ont montré que le partage et l'échange d'expérience représentaient une réponse thérapeutique efficace. Hein. Après, dans les années 50, vous avez beaucoup d'associations d'usagers qui se sont développées, notamment dans la santé mentale. Ils ont prouvé la pertinence de la péridance. Et puis dans les années 90, alors là, il y a eu des associations d'usagers de drogue qui ont inventé des groupes d'autosupport. Et puis les patients, les associations ont mobilisé dans le champ par exemple du sida, là ça a été très fort, de l'hémophilie, de la myopathie, de la mucoviscidose, vous voyez. Donc depuis 30 ans, depuis une trentaine d'années, les patients expriment la volonté dans le champ des maladies chroniques hein, de devenir acteurs du système de santé. Le législateur n'est pas resté en reste quand même. Hein. On a les grandes lois de 2002 et de 2009. 2002, la loi Kouchner, hein, qui accorde des droits individuels et des droits collectifs aux patients. Et puis la loi de 2009, qui inscrit l'éducation thérapeutique du patient dans un cadre juridique.